S'il n'y a pas d'autres questions diverses, je passe de suite la parole à Michel Pratt.
Bonjour à tous. Ce soir, enfin, il y a plusieurs conseils communautaires. On avait dû également, on vous avait annoncé effectivement la venue de Mégalis pour faire un point sur le très haut débit. Donc voilà, c'est ce soir. L'idée, c'est effectivement de vous dire où on en est sur le territoire, où on va aller. Vous parlez également de montée en débit, puisqu'il y en a quelques-unes qui sont prévues pour la prochaine phase. Et c'est ce qui est inscrit d'ailleurs en termes de délibération pour ce jour. Donc, écoutez, très rapidement, moi je vais laisser la place à Mégalis et je pense que vous aurez plein de questions après leur présentation. Voilà, merci.
Merci, madame. Bonjour à tous. Du coup, on va essayer de faire très rapide sur la présentation pour pouvoir laisser la place aux questions. Alors, je suis Thomas Renaud, directeur du projet Bretagne Très Haut Débit, qui travaille dans les services de Mégalis Bretagne. Je suis accompagné de Claudine Morin, donc ma collègue qui est chargée d'affaires en charge du suivi des travaux et des études pour le compte du syndicat mixte sur votre territoire. Donc je vais faire quelques rappels rapides du projet pour vous resituer le contexte et savoir où on en est à l'échelon régional. Et bien évidemment, Claudine fera un focus spécifique sur où on en est sur votre territoire avant qu'on parle de l'avenir. Voilà. Donc très rapidement, Mégalis et le projet. Donc le projet Bretagne Très Haut Débit, c'est une initiative publique. On est donc bien sûr à la construction d'un réseau public. En complément de l'initiative privée, en Bretagne, il y a des territoires, notamment la commune de Vitré, par exemple, où c'est Orange ou SFR sur d'autres communes qui investissent pour construire le réseau. Nous, on s'occupe de les zones bleues, c'est-à-dire celles qui ne sont pas concernées par ces investissements privés, qui représentent quand même 60% de la population. Donc 1,2 million de locaux, donc d'entreprises, de sites publics et de particuliers à rendre raccordables à la fibre le plus rapidement possible. Le principe du projet public, c'est un équilibre entre les zones rurales, bien évidemment, qui attendent cette infrastructure le plus rapidement possible, mais aussi les villes moyennes qui ont besoin pour leurs entreprises et pour l'attractivité d'avoir cette fibre. D'où le principe politique qui a été acté d'une prise en zone urbaine en même temps qu'une prise en zone rurale. Comme je le disais, c'est un projet public, donc avec une maîtrise d'ouvrage public qui est portée par le syndicat mixte Mégalis Bretagne, ce qui nous permet de choisir aussi les zones et le rythme de déploiement en concertation avec les collectivités. Les acteurs du projet, donc Mégalis Bretagne, donc un syndicat mixte, un établissement public, composé de la région, les quatre départements et l'ensemble des EPCI de Bretagne. On est maître d'ouvrage, donc c'est nous qui passons les appels d'offres pour les études et les travaux. On retient de nombreuses entreprises, notamment locales, pour travailler sur le sujet. Une fois qu'on a construit le réseau, on le confie à une entreprise privée, qui est une filiale d'Orange, qui a été retenue dans le cadre d'un appel d'offres et d'une délégation de services publics. Et son métier, cette entreprise, qui s'appelle THD Bretagne, c'est de maintenir le réseau et de le commercialiser auprès des opérateurs. Orange, Bouygues, SFR, Free, etc., que vous connaissez. C'est eux qui apportent le service via notre délégataire. Alors, aujourd'hui, le phasage, le projet est prévu pour être construit en trois phases. 1,2 million de prises, bien évidemment, on ne peut pas le faire en 2-3 ans. Donc, il est prévu, le projet a commencé depuis quelques années. On a trois phases. La première qui est en cours, donc on va en parler tout de suite après. La deuxième qui commencera en termes d'études cette année, à l'été, mais en termes de travaux l'année prochaine, et qui est prévue pour durer jusqu'en 2023. Et puis, la troisième phase, qui est prévu pour commencer à partir de 2023, notamment en termes d'études, était prévu initialement pour se terminer en 2030, mais on est en train de travailler pour réduire la durée de cette troisième phase et aller plus vite en termes de déploiement. J'y reviendrai en fin d'intervention. Voilà. Où on en est à l'échelon régional, 50 000 foyers avaient déjà été traités sous forme de montée en débit. Alors la montée en débit, ce n'est pas de la fibre jusqu'au domicile, c'est de la fibre jusqu'à un point intermédiaire, jusqu'à une armoire, mais on reste en cuivre avec le réseau téléphonique jusqu'au domicile. Donc ça permet quand même d'améliorer la situation en termes de vitesse, mais ce n'est pas encore aussi puissant et aussi performant que la fibre, et on ne peut pas le faire partout, surtout. On en reparlera tout à l'heure pour ce qu'on vous propose de réaliser prochainement. On en a déjà réalisé il y a quelques années, et 50 000 foyers ont pu bénéficier d'améliorations, en tout cas en attendant l'arrivée de la fibre. Sur la fibre jusqu'au domicile, ce qu'on appelle le FTTH, On a déjà aujourd'hui 70 000 locaux, entreprises, sites publics particuliers qui sont raccordables à la fibre et on a déjà plus de 26 000 abonnés. On devrait fêter prochainement notre 30 millième abonné. Ce qui fait aussi, on le voit, un taux de pénétration, c'est-à-dire que les gens prennent assez rapidement un abonnement, même dans les villes, même là où ils ont du débit correct. Donc on voit qu'il y a une certaine appétence aussi de la population pour cette technologie. Et aujourd'hui, on a 170 000 locaux, donc on continue à travailler, qui sont en cours de démarrage de travaux. Hein, comme vous pouvez le voir, il y a des armoires, des câbles qui sont déployés, et aussi des bâtiments, des centraux qui sont posés. Je passe la parole à ma collègue pour faire le zoom sur Vitré Communauté.
Bonjour. Donc, pour commencer, il y a eu un déploiement qui a été réalisé alors, en montée en débit. Donc, comme le disait Thomas Renaud, il ne s'agit pas d'emmener le FTTH dans les maisons, mais bien de remplacer un lien cuivre pour rapprocher la fibre des habitations qui sont autour des sous-répartiteurs optiques. Donc, ces opérations ont été réalisées et ont été terminées aux alentours de 2016. Et donc, vous voyez en rose les différents secteurs qui ont permis de réaliser une montée en débit de 1246 lignes sur Vitré Communauté. Donc là, on vous a mis les petits rappels financiers. Donc, il y a une part financée par le PCI et le reste bénéficiant de subventions. Donc, là, vous avez une carte qui vous présente les différentes phases de déploiement. Donc, la phase 1, c'était en effet la partie avec les montées en débit qu'on a vu tout à l'heure, mais surtout le FTTH. Donc, le FTTH, c'était une première tranche et une deuxième qui apparaît là en rose. Et donc, c'est ce qui se passe en ce moment sur vos territoires. Donc, vous avez principalement trois secteurs. Donc, vous avez la zone Z085, c'est Cornillé, Saint-Aubin-des-Landes principalement. La zone 89, Domalin et Vergéal. Et la zone 93, on l'appelle Rané, Drouge, Moussé, Arbrissel, qui sont des secteurs sur lesquels on est en train de travailler. Je vous ferai un petit zoom dessus. Il y a également quelques prises, alors quand je dis quelques, c'est deux prises, qui sont tout au nord, qui sont sur une zone qui est un petit peu plus lointaine, mais qui sont aussi sur votre territoire. Alors la phase 2, vous la voyez en vert, là ce sont des travaux qui vont avoir lieu prochainement, puisque le marché va prochainement être attribué, on va en parler tout à l'heure, et des travaux qui vont avoir lieu entre 2020 et 2023, et en la troisième phase qui va débuter ensuite en 2024. Donc la deuxième tranche, alors ce qu'on appelle nous la zone 85 au niveau de Cornillé et Saint-Aubin-des-Landes, ça a été la première zone qui a été mise en activité par les entreprises sur le département. Donc, vous avez pu bénéficier de ces travaux assez rapidement, puisqu'aujourd'hui, on a les armoires qui sont posées, le transport qui est réalisé. On a également 235 prises qui sont déjà commercialisables, avec des premiers abonnés sur ce secteur-là. On va avoir de nouveaux abonnés d'ici 2 mois qui vont pouvoir arriver. Et malheureusement, on a des petits secteurs qui sont un petit peu bloqués, où on va devoir revenir un petit peu plus tard, puisqu'on a 2 passages de voie SNCF à faire. Et on n'a pas encore obtenu les autorisations, donc on reviendra un petit peu plus tard. Mais c'est une zone donc, qui, on espère, pourra être entièrement, où les gens pourront être entièrement raccordés au premier trimestre de l'année prochaine. On a également la zone, alors je passe tout au sud, la zone Z093 avec Moussé, Rané. Donc là, on est sur un secteur sur lequel on a 3 armoires. Notre transport, eh bien, aujourd'hui, il est fait. Il est en train d'être. Il y a des toutes petites reprises qui sont en cours. Mais on va avoir ici des premières prises qui vont être commercialisables en 2019 avec une pose de poteau là, qui commence actuellement sur ce secteur-là. Et le troisième secteur, c'est la zone Z089 avec 1233 locaux. Donc, les communes qui se concernent principalement, les communes de Vergéal et de Domalin. donc qui aujourd'hui ont 3 armoires posées, qui ont des études là aujourd'hui qui sont en cours et qui avancent bien. Donc on va avoir les premiers travaux de génie civil pour le transport là qui vont arriver très prochainement. Hein. On espère avoir les upkeep au mois de juin pour avoir après des travaux qui vont débuter cet été. Et avoir, alors ça prend du temps, et avoir des premières prises qui soient commercialisables, on espère courant du premier trimestre 2020 hein, pour les premières prises. Donc voilà pour les travaux qui sont actuellement en cours. Mince, c'est pas lourd. Voilà. Donc maintenant, ça c'est un petit point pour voir la deuxième phase. Qui est aujourd'hui, donc qui concerne 10 537 locaux. Donc ça, ce sont les zones qui ont été retenues en phase 2 sur votre territoire. Alors au niveau de l'appel d'offres, on va revenir, hein, mais l'appel d'offres est en cours. Il doit être attribué là tout début mai. Et on espère donc avoir la première phase d'étude là, qui va se dérouler sur l'année 2019 pour avoir des premières prises commercialisables sur ces secteurs en vert fin de l'année 2020. Et donc les travaux hein, vont continuer à s'échelonner jusque fin 2023 par rapport au calendrier prévisionnel. Donc aujourd'hui, on ne sait pas encore comment vont s'échelonner les travaux puisque c'est dans le cadre de son offre que le candidat présentera son programme de déploiement. Voilà, je vais passer la main à Thomas Renaud qui va vous expliquer plus précisément, qui va vous parler plus précisément maintenant des maîtres de deuxième génération, c'est-à-dire des zones sur lesquelles on peut, comme on l'a fait avant le déploiement des premiers FTTH, faire une montée en débit.
L'idée qui a été proposé en comité syndical de Mégalis, c'est de dire, voilà, on voit, il y a un phasage dans le temps, donc il y a des gens qui sont servis en dernier, forcément. Même si on a essayé de prioriser les zones à plus faible débit, on ne peut pas partout aller, enfin, on peut pas aller partout aussi vite qu'on le voudrait. Donc l'idée, c'était de dire, est-ce qu'il n'y aurait pas encore des zones sur la phase 3 du projet, donc ceux qui sont prévus après 2023, qui pourraient faire l'objet de montées en débit sur le réseau cuivre, en attendant. Donc on a fait une étude en regardant le réseau cuivre actuel, donc le découpage, uniquement sur cette phase 3, en regardant aussi donc les secteurs qui étaient éligibles au sens d'orange, hein, puisqu'on vient percuter le réseau cuivre, donc c'est orange qui nous dit si c'est possible ou pas, et aussi avec quelques critères pratiques, du genre il fallait qu'il y ait au moins 80 lignes, qu'il y ait un maximum de personnes qui passent au-dessus de 8 mégas une fois l'opération réalisée, etc. Donc des critères un peu, je dirais, techniques. Et on a fait ça, ce travail-là, à l'échelon régional, et ça a donné environ 150 sous-répartitions du réseau cuivre qui peuvent être transformées en montées en débit. 2 sur votre territoire, c'est très inégal hein, en fonction des territoires, hein, ça dépend beaucoup du réseau téléphonique. 2 sur votre territoire, donc une première qui va concerner principalement la commune de Mont-de-Vert à partir du central donc de Herbray. Hein, donc on va en fait construire un lien optique entre Herbray et entre le central d'Herbray et puis une armoire qui est déjà existante du réseau téléphonique qui est à Mont-de-Vert, et ça va permettre aux petits points verts que vous voyez sur la carte de passer principalement au-dessus de 8 mégas alors que pour la plupart ils sont en dessous de 8 mégas aujourd'hui. Donc ce que vous voyez sur le graphique hein, en bleu c'est l'état actuel et en orange ce qu'il y aura après. Donc ça, c'est une opération qu'on propose hein, au territoire et qui fait l'objet de votre débat aujourd'hui. Donc il y a une opération sur Mont-de-Vert et puis je vais présenter celle d'après qui concerne principalement donc, la commune de B. Alors je dis principalement parce que le réseau téléphonique ne suit pas les limites administratives et on peut avoir quelqu'un qui est abonné, qui est peut-être sur la commune de Louvigné de B, mais qui a son réseau téléphonique à partir de B. Bon, ça peut arriver. Là également, on a un effet assez positif sur le nombre d'abonnés. Ça concerne là 82 prises, donc abonnés qui vont passer majoritairement au-dessus du 8 mégas alors qu'ils étaient en dessous auparavant. Donc pour la réalisation de cette opération sous maîtrise d'ouvrage de Mégalis Bretagne, il y a un plan de financement qui a été proposé avec une part de la région, du département et de l'intercommunalité sur l'investissement. Et puis sur le fonctionnement également, puisqu'il y a du matériel actif, il y a de la location d'infrastructures, et on doit aussi payer des coûts d'exploitation du réseau. Et donc, pour les deux opérations, alors pour celle-ci, il y a une part d'investissement proposée à 17 376 euros pour le PCI, 200 euros de fonctionnement annuel. Et pour l'autre opération, on est à 21 959 pour le PCI et 200 euros de fonctionnement annuel. Donc, le coût d'investissement est très lié aux travaux à réaliser. C'est-à-dire que plus c'est compliqué à réaliser entre le central d'origine et puis la sous-répartition qui va être montée en débit, si on a des travaux publics à faire ou s'il y a déjà des infrastructures existantes. Donc voilà pour ces deux propositions. Ce qui fait qu'au global, si on prend la carte du territoire avec les phases qui sont représentées, donc la phase 1 en rose-violet et la phase 2 en vert, plus les montées en débit déjà réalisées et celles qu'on propose, on voit que ça a un effet très positif puisque à l'issue de la phase 2, on n'aura plus que 5% des gens qui auront moins de 8 mégas et qui seront encore à traiter en phase 3 ou qui seront nécessairement traitables ou devant être traités en attendant par d'autres solutions. Alors que sur la situation actuelle, on a 26% de gens qui sont à moins de 3 mégas, à 8 mégas, pardon, moins de 8 mégas. Donc on voit quand même que ces opérations ont un effet très positif sur l'éligibilité ADSL, 18T ou autre débit. Voilà, pour finir sur cet aspect prospectif, avant peut-être juste de faire un petit point aussi pratique, l'objectif, bien évidemment, c'est d'aller le plus vite possible sur les zones qui sont en cours de déploiement. Hein, donc on a parlé, Claudine, vous avez fait un point de situation. Donc c'est pas simple, hein, on a des difficultés, on pourra vous illustrer si vous le souhaitez, mais on y travaille. On propose donc des solutions de montée en débit pour essayer d'attendre sur certains secteurs qui sont éligibles et en tout cas essayer d'améliorer la situation. Donc il y a deux nouvelles montées en débit prévues sur Vitré Communauté. On travaille également sur l'accélération du rythme pour la phase 2 et la phase 3, ce dont on vous a parlé. Donc il y a un marché qui devrait être attribué dans les jours qui viennent. Le principe, c'est d'avoir un marché régional, de maximiser et de construire un outil industriel beaucoup plus puissant que ce qu'on peut avoir actuellement, donc de monter en puissance aussi les entreprises, les bureaux d'études pour aller beaucoup plus vite. Je ne peux pas vous donner encore d'informations précises, mais je peux déjà vous dire qu'on va sensiblement raccourcir la durée de la phase 3. Donc ça sera positif, on ne sera plus à 2030, et que probablement aussi on aura une économie globale meilleure que ce qu'on a pu connaître jusqu'à présent. Donc on aura aussi à revoir ces aspects financiers qui sont assez importants dans la situation actuelle. Donc l'objectif, voilà, de cet appel à projet, donc d'avoir un marché global qu'on démarrera dès 2019. Et enfin, pour terminer, parce qu'on l'a vu sur la carte, il restera peut-être des gens qui n'auront pas le bon débit au bon moment. Il y a des solutions alternatives, hein, satellites ou 4G, etc., bon, qui ne sont pas la panacée, mais qui peuvent dans certains cas être des solutions d'attente. Et l'État a ouvert un guichet il y a quelques jours, quelques semaines, d'un soutien financier, donc je tenais à le souligner. Alors, pour terminer, on voulait aussi communiquer auprès des élus sur quelques idées de solutions pratiques, que faire en attendant la fibre, puisque on échangeait en aparté tout à l'heure avec Mme Prat. On voit qu'on a des très bonnes relations aujourd'hui Mégalis avec le territoire et ça avance bien, notamment parce que les élus et les services s'impliquent. Et ce n'est pas le cas partout. Donc on tenait aussi à faire passer ce message. Ça peut être intéressant d'avoir des retours d'expérience et des bonnes pratiques. Et donc on voulait vous situer quelques points, si Claudine, tu veux le faire.
Alors déjà, oui, comme le disait Thomas, je tiens à remercier les élus avec lesquels on travaille actuellement sur les zones en cours de déploiement, parce que c'est vraiment, et c'est pour ça d'ailleurs qu'aujourd'hui on peut annoncer des plannings, parce qu'aujourd'hui on a des communes qui nous ont vraiment aidés, à la fois pour trouver des emplacements pour les armoires. Les armoires de rue, il faut, et ce n'est pas toujours évident en zone, que ce soit rurale ou urbaine, trouver un endroit pour implanter ces armoires qui soit non gênante pour la circulation des riverains et qui puisse aussi être acceptée par les ABF quand on est en zone ABF. Donc c'est un travail à mener entre nos maîtres d'œuvre, nos techniciens et les communes. Et ensuite, on sollicite énormément les communes. Et chez vous, ça a vraiment joué le jeu. C'est vraiment super pour l'élagage des arbres, puisque aujourd'hui, on déploie en aérien. On est obligé de suivre le réseau Orange pour pouvoir amener la fibre jusqu'à l'abonné. Et on a vraiment besoin des élus pour pouvoir nous aider, enfin, pour pouvoir faire procéder aux élagages. Et sur vos secteurs, ça a été fabuleux, puisque quelques mois seulement après les demandes, hein, on parle même en semaines sur certains, les élagages ont été réalisés presque à 100% sur la totalité du territoire. Donc ça, c'est super parce que ça veut dire qu'on a zéro blocage pour nos entreprises pour aller après déployer. Il peut y avoir plein de problèmes techniques ou autres, mais on n'a plus ce blocage de l'élagage qui a été le frein majeur au début du déploiement. Donc voilà. On a également, alors là, on sollicite, alors pour le moment, sur les territoires, on est plutôt dans des zones très rurales, mais sur les phases 2 et la phase 3, on va avoir plus cette problématique de besoin de signer les conventions d'immeubles. Alors, qu'est-ce qu'on appelle l'immeuble ? Nous, on appelle immeuble tout bâtiment qui a 4 logements ou plus, et pour lequel on est obligé non pas de mettre le point de branchement sur le domaine public, mais à l'intérieur du bâtiment, donc, c'est-à-dire dans les parties communes. Et bien sûr, on ne rentre pas dans une partie commune de bâtiment tant qu'on n'a pas l'accord du propriétaire. Et c'est vrai qu'on a besoin des communes pour pouvoir aller expliquer aux riverains dans quel cadre on vient faire ces travaux, parce que ce n'est pas forcément évident pour un riverain de signer une autorisation à une entreprise pour pouvoir venir faire une pénétration chez elle et poser un boîtier. Donc voilà, on a également toute la partie passage de câbles le long des façades, parfois en surplomb, etc., pour lesquels on a besoin également d'assistance, même s'il y a aujourd'hui la loi Elan qui est censée faciliter cette mise en œuvre, mais pour le moment, au niveau des décrets d'application, on ne sait pas encore trop comment l'utiliser. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, les communes sont vraiment un véritable appui. Et puis, on a également toute la problématique de la numérotation, puisque tout simplement, pour pouvoir raccorder des gens, il faut qu'il y ait une adresse qui soit reconnaissable. Donc, on a besoin d'une adresse avec également un numéro pour pouvoir différencier deux bâtiments riverains. Et c'est vrai qu'il y a toute une nécessité de travailler avec la Poste, hein, le SNA, pour faire cette numérotation. C'est un gros travail qui a été mené par les communes et qui est à poursuivre, surtout en zone rurale. Et après, voilà, pas mal d'échanges pour vérifier que tout ça soit bien à jour. Donc, ça, ce sont les parties sur lesquelles on vous sollicite quand le projet est en action. Mais au tout démarrage du projet, le point essentiel pour qu'une étude puisse se faire, c'est d'avoir le recensement de tous les projets à venir dans les 3 à 5 ans. Alors, ça peut paraître anodin, mais ça a été une difficulté majeure pour le projet que d'arriver, parce que c'est pas évident pour une commune de pouvoir recenser la majorité des projets qui vont intervenir, et nous, si on ne les a pas, on ne sait pas dimensionner une ingénierie de réseau. Donc c'est quelque chose qui est super important, et c'est vrai que pour les phases 2 et 3, si vous pouvez déjà solliciter vos services d'urbanisme pour qu'ils puissent tenir un petit tableau qui permet de n'oublier personne au moment du déploiement, puisque sinon après on est obligé de revenir en extension, et forcément ça inclut des délais qui sont plus longs. Voilà.
On a terminé.
Merci beaucoup, on a beaucoup appris. Merci à Michel Pratt, à Christian Stéphan et à Johan Mailleux, parce que je pense que ce qui a été dit mérite d'être signalé. Vous avez peut-être, nous deux, plus vite on ira, mieux c'est. On était prêts à avancer l'argent de la région, mais la contrainte n'est pas là, on le reconnaît. Et la deuxième question, je voulais savoir, est-ce qu'il y en a beaucoup qui ont profité sans attendre 2025 de la subvention pour les antennes où ça n'a pas vraiment fonctionné? Michel?
En fait, il n'y a pas tant de gens que ça, effectivement, qui font appel, parce que on en parlait justement avec Johan. Soit ils trouvent une autre solution, ils font une demande, mais en fait, ils ne vont pas jusqu'au bout. C'est-à-dire que parce qu'ils trouvent une autre solution c'est généralement plutôt une autre solution d'ailleurs qui est trouvée. Notamment les clés 4G aujourd'hui qui fonctionnent assez bien sur certaines zones. Et donc du coup, effectivement, le satellite n'est pas forcément le plus sollicité chez nous.
Merci. Question, si vous en avez par rapport à tous. Oui, madame, au fond. Je ne vois pas très clair d'ici.
Oui, bonjour Delphine Dallot, d'Aumanier. En vous écoutant, j'ai eu une idée. En fait, moi, je travaille pour une entreprise sur une zone artisanale. Et donc, au niveau privé, on va installer la fibre optique. Est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen de mutualiser et de préparer l'avenir aussi pour cette zone et d'utiliser ce qu'on va faire comme travaux pour la suite ?
Alors, c'est une question très intéressante parce qu'il y a souvent des confusions entre le marché entreprise et le marché grand public. Tout ce qu'on fait ensemble aujourd'hui, ensemble les collectivités, c'est on vient remplacer le réseau cuivre qui a servi principalement pour le grand public, pour la DSL qu'on a tous chez soi, mais aussi pour les professionnels. Il y a beaucoup de pros qui sont abonnés au réseau cuivre. La fibre qu'on déploie, qui est déjà en train d'être déployée chez vous, va permettre d'apporter du très haut débit aux particuliers et aussi aux pros, et parfois même aux PME, parce qu'il y a certaines entreprises qui vont trouver des offres intéressantes. Mais ça ne va pas être des offres d'un niveau attendu par certaines entreprises qui ont besoin de sécurité, de temps de rétablissement très court, de fiabilité, etc. Et dans ce cas-là, il faut passer sur une offre entreprise qui nécessite un câble spécifique, une fibre dédiée. Et les opérateurs, n'importe quel opérateur, enfin, pas tous, mais un opérateur peut très bien vous déployer une fibre dédiée, c'est ce que vous êtes en train de faire, pour vos propres besoins, alors que même nous, on n'a pas encore déployé. La mutualisation de travaux, elle est valable. Enfin, quoi qu'il arrive, il y aura mutualisation, dans le sens où si l'opérateur va créer des fourreaux spécifiques pour vos propres besoins, nous, on les réutilisera. On ne va pas s'amuser à créer des infrastructures nouvelles. Voilà. On réutilise au maximum les infrastructures existantes. Donc, quoi qu'il arrive, plus il y aura de câbles, de fourreaux déployés sur un territoire donné, plus ça facilitera l'arrivée ensuite de la fibre pour tout le monde. Donc, c'est dans ce sens-là. Après, une coordination de travaux en amont, c'est beaucoup plus complexe. C'est-à-dire que nous, venir déployer en avance de phase parce qu'un autre... Enfin, là, généralement, on a beaucoup plus de mal. Voilà.
Merci.
Delphine Dallot. Est-ce que l'entreprise Sereco a des difficultés avec cela en matière de numérique et de communication ?
Si on installe la fibre optique, c'est parce qu'il y a un problème de débit, oui, effectivement.
Ah oui. Autre question ? Oui.
Est-ce que sur la phase 1, vous avez déjà du retard ? Par exemple, est-ce que vous allez avoir du retard à la fin de la phase 1 ou est-ce que ça se déroule normalement ?
Alors oui, quand on regarde le planning tel qu'il avait été conçu fin 2011, on est en retard. On aurait dû finir la phase 1 fin 2018. Donc forcément, oui, on est en retard. Voilà. Par contre, le planning de la phase 2 n'est pas lié au planning de la phase 1. C'est-à-dire qu'il est probable que sur certaines zones, on parlait tout à l'heure en aparté de certaines communes que je ne citerai pas, mais qui ne sont pas sur votre territoire, qui nous posaient des problèmes de déploiement, qui nous interdisaient par exemple de déployer... pendant l'été, parce qu'il y avait des secteurs touristiques. Donc on risque de prendre du retard chez eux, et ils risquent peut-être de passer après certaines communes de la phase 2. C'est-à-dire qu'on n'aura peut-être pas fini la phase 1 sur certains territoires, alors qu'on aura déjà bien commencé la phase 2. Donc le retard pris sur la phase 1 ne va pas avoir d'impact sur la phase 2. C'est le message que je souhaitais passer. Par contre, oui, c'est sûr que la phase 1, par rapport à ce qui était prévu à l'origine en 2012, on pensait terminer en fin 2018, vu toutes les difficultés qu'on a rencontrées. On n'a pas fini, effectivement.
Olivier. Oui, Christian Olivier, maire de Domalin. Donc, voilà, vous avez répondu à ma question. Je tenais tout simplement à vous remercier aussi, Madame Morin, Mégalis Bretagne et Vitry Communauté, Johan Mailleux, pour les relations et la très grande réactivité depuis quasiment un an maintenant. Puisque nous sommes rentrés dans la réalisation concrète. Et voilà, on a effectivement eu quelques impatiences, quelques irritations, pour ne pas dire, mais ça venait effectivement de notre territoire qui était tellement demandeur que voilà, on retransmettait un petit peu le retour de nos habitants, de nos administrés. Donc je tiens à vous remercier fermement pour la très grande réactivité que vous faites preuve aujourd'hui, et on essaie effectivement de faire en sorte que les choses se passent pour le mieux et que vos entreprises ne soient pas freinées dans le déploiement de ce réseau.
Merci Christian. Pas d'autres observations ? S'il n'y a pas d'autres observations, comme l'équipe marche bien, il y en a une, pardon, excusez-moi, oui.
Oui, bonsoir, Patricia Marsolier, maire de Drouge. Moi, j'ai une question par rapport à la commercialisation. Moi, j'ai un de mes administrés qui m'a posé la question suivante. Il n'est pas chez Orange. Comment ça va se passer pour les gens qui sont ailleurs que chez Orange.
Oui, le réseau public est neutre et ouvert à tous, comme d'ailleurs le réseau qui est construit par Orange sur Vitré. Il est neutre et ouvert à tous, c'est-à-dire qu'il y a pas, tous les opérateurs peuvent venir l'utiliser, moyennant finance. C'est-à-dire que notre réseau ou celui d'Orange sur Vitré, il peut être loué par n'importe quel opérateur. Sur notre réseau, aujourd'hui, il y a déjà un fournisseur d'accès Internet qui est Orange, qui lui a signé dès le départ. Voilà. Alors c'est peut-être parce qu'on a un exploitant qui est aussi Orange, donc ça facilite les choses. On a un deuxième opérateur qui a signé l'été dernier, qui s'appelle Bouygues. On a eu quelques petites contraintes administratives, mais il devrait pouvoir commercialiser ses offres, on l'espère, à la rentrée, c'est-à-dire à l'automne de cette année. Donc voilà, pour eux, ils ont deux périodes importantes, c'est l'automne, enfin la rentrée et puis Noël. Donc normalement, on a déjà deux opérateurs et on est en discussion également avec SFR et Free pour qu'ils viennent sur notre réseau. La contrainte, elle n'est pas chez nous, elle est plutôt chez ces opérateurs-là qui ont des parts de marché plus limitées qu'Orange et donc ont besoin d'un volume important pour justifier leur investissement pour venir sur notre réseau. Parce que voilà, c'est un investissement aussi pour eux, pour venir. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils installent leur matériel, il faut qu'ils fassent des efforts de marketing, etc. Donc ça leur coûte de l'argent, donc il faut qu'ils aient quand même beaucoup d'abonnés au bout pour rentabiliser. Donc forcément, par rapport à une ville comme Rennes, où, voilà, ils viennent plus, enfin, ils réfléchissent. En tout cas, je vous l'ai dit tout à l'heure, on a 70 000 déjà raccordables. Personne, voilà. Finalement, à l'échelle de la France, ça ne fait pas beaucoup pour un opérateur comme SFR ou Free. Donc, ils mettent un peu de temps à venir. Mais ce que je peux vous dire, par rapport à nos prévisions d'origine, ils viennent beaucoup plus rapidement que ce qu'on avait prévu. Donc, ça, c'est positif. C'est-à-dire qu'il est fort probable que les quatre opérateurs majeurs nationaux soient présents sur notre réseau dans les mois qui viennent, puisqu'ils l'ont annoncé aussi au niveau national. Hein. Donc, ça, c'est très positif à la fois pour l'économie du projet, mais aussi pour les particuliers qui effectivement n'ont pas forcément envie de changer d'opérateur. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, à part Orange et puis Bouygues, dans quelques semaines, dans quelques mois, il n'a pas beaucoup de choix.
Merci. Je voudrais en profiter pour dire, comme l'équipe a l'air de bien fonctionner, en accord avec le rapport qui va suivre, qu'on puisse présenter en fin décembre les moyens de lutter contre le déclassement dû au numérique et à la dématérialisation, ou comment peut-on aider les gens à se former ou avoir accès, parce qu'on risque sinon d'avoir de plus en plus de difficultés avec certaines personnes qui vont se sentir exclues. Donc moi, je souhaiterais qu'un rapport puisse être fait en fin d'année. Je pense que vous en avez la capacité, et en liaison, bien entendu, avec le service des bibliothèques dont on va parler tout à l'heure. Merci. Merci à l'équipe.
Oui, Pierre, sur ta dernière remarque.
Oui.
C'est Anne Charlot. Sur ta dernière remarque, je pense aussi qu'il faut associer le conseil départemental, parce que nous sommes plusieurs partenaires à travailler avec l'agence.
D'accord. Donc, un rapport serait utile en fin d'année sur ce service apporté à la population.
Dernier point, parce